Vidocq, mémoire, chapitre 52. Adèle, se voyant de la haute, sentit tout à coup le poids de l'isolement auquel s'était résignée. Elle éprouvait un vide qu'elle ne pouvait pas définir, ou plutôt elle le définissait si bien qu'elle se promit d'écouter le premier galant qui viendrait lui conter des douceurs, pourvu toutefois que ce galant fût de son goût. Et celui à qui elle plut et qui lui plut pareillement fut un nommé Rigottier, le plus aimable des escrocs de billard. Ce fut à l'issue d'une poêle poule dont il sortait victorieux, qui lui glissa un poulet farci d'expression, où l'amour que lui avait inspiré se peignait en traits de feu, car Rigottier était terriblement épris, véritablement. Adèle, qui auparavant mourait de peur d'être contrainte à prendre l'initiative, accueillit sa déclaration, et dans la joie de son triomphe, elle se garda bien de le laisser soupirer. Et pour avoir pitié d'elle-même, elle eut pitié de lui. Et comme la sympathie était manifeste, le rapprochement eut lieu immédiatement, sans que le ministère d'aucun officier de l'état civil eût été invoqué. Adèle ne pouvait pas ignorer qu'une femme ne doit rien avoir de caché pour son homme. Aussi, elle n'eut pas plus tôt unit son sort à celui de Rigottier, qu'elle s'empressa de lui faire part de ses petits talents, en lui révélant tout le lucre qu'elle en tirait. Il fut enchanté de la prestesse avec laquelle elle maniait la lime. Il voulut essayer s'il avait des dispositions. Adèle les reconnut, les cultiva. Et comme une leçon qui profite mieux et plus vite que celle d'un maître qu'on adore, en très peu de temps, Rigottier sut façonner une clé avec autant de perfection que le plus expert des serruriers. Décidément, en suivant sur le tapis vert les hasards d'une queue à laquelle la femme est trop souvent infidèle, Rigottier s'écartait de sa vocation. Adèle entreprit de le ramener, et le succès le plus complet couronna ses efforts. Néanmoins, elle ne voulut pas qu'il s'aventurât avant d'être parfaitement stylé, tant elle craignait qu'il ne se compromît pas à pattes claires. D'abord, elle ne l'emmena que pour faire le guet, mais après quelques expéditions, pendant lesquels il s'était à regret croisé les bras, il finit convenu qu'il mettrait la main à la pâte. Mais la dame, qui passait pour riche, restait rue de la Ferronnerie. Elle avait beaucoup d'écus, assurait sa femme de ménage, et Adèle se faisait une fête de la dévaliser. Déjà les clés étaient prêtes, elles ouvraient à merveille. Il ne s'agissait plus, pour en faire usage, de saisir l'instant propice. Sa femme de ménage avait promis de faire savoir quand sa maîtresse s'absenterait. Elle tint parole. Un jour, elle vint annoncer que madame irait en soirée. Aussitôt, on se concerta sur les moyens d'exécution. « Allons, » dit Adèle à son élève, « il n'y a pas à racler, reculer. Tu te retrouveras avec moi. Je veux voir un peu comment tu t'y prendras. L'affaire est superbe. Ainsi on ne peut pas mieux choisir pour un coup d'essai. » Rigottier ne recula pas. Il partit avec Adèle, et dès qu'ils furent certains que la dame était sortie, ils montèrent à son appartement, où ils entrèrent sans difficulté. Une fois dedans, pour être comme chez eux, Il s'enferme au verrou et procède, sans désemparer, au bruit de tous les meubles qu'il suppose contenir des écus. Un secrétaire, deux commodes, une armoire, un chiffonnier, plusieurs nécessaires sont soumis à l'effraction. Et nulle part on ne trouve le numéraire dont avait parlé la femme de ménage. Mais où donc est passé ce numéraire? Une obligation sur laquelle on s'avisa de jeter les yeux apprit que par l'effet d'un placement opéré la veille, il était passé chez le notaire. Oh, il y avait de quoi arracher les cheveux. Mais loin de s'abandonner à un désespoir inutile, le couple déjà embrasse en un regard la multitude des objets qu'une fouille à Miami a découvert, juge que, du sein de ce désordre, il peut surgir encore de raisonnables consolations. Et afin de se les procurer, il fait main basse sur les bijoux, sur l'argenterie, sur les dentelles et sur le linge. En un instant, le triage est fait. Tout ce qu'il y a de précieux est soigneusement rassemblé dans des paquets. Le verrou est tiré et l'on va sortir. Adèle, transportée de satisfaction, saute au cou de son amant et l'embrasse. Rigottier est digne d'elle. Il a montré son front froid. Elle ne peut assez donner d'éloges à l'aplomb avec lequel il l'a secondée. Et dans son enthousiasme, elle l'embrasse encore. Un baiser en demande un autre. Rigottier en donne 10. L'échange est rapide. C'est un feu roulant. On s'enivre. On s'abandonne. On s'oublie. Le couple n'est pas sur la terre. Il n'y a plus de gendarmes, plus de mouchards, plus de lois, plus de tribunaux, plus de souvenirs, plus de prévisions. L'amour écarte les périls. La foudre peut tomber, le plancher s'effondrer, la maison s'écrouler, l'univers s'engloutir. Le couple ne voit, n'entend rien. Et si fructus in vatur pois in paguidum ferunt anae, Adèle et Rigottier ne sont plus de ce monde, parce que la vie n'a plus d'épines, plus d'aspérité, plus d'amertume. La vie est un édredon rempli de délices. Cela se conçoit, mais à Paris, les rues ont deux côtés. Il est quelquefois prudent de songer aux inconvénients du vis-à-vis. La dame dont l'absence causait une sécurité si profonde n'était pas allée loin. En face de son logement, et justement à l'étage correspondant, restait une de ses amies. Elle était chez elle à faire sa partie de piste-boston. Lorsque, tout à coup, tandis qu'on donne les cartes, son regard se porte machinalement sur une de ses croisées. « Ah, ça, dites donc, mesdames !» s'écrie-t-elle. Mais il se passe dans ma chambre à coucher quelque chose de bien extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Mais apercevez-vous, il y a de la lumière. Oh, vous vous trompez, c'est la réverbération. Mais que dites-vous, la réverbération? Je ne suis pas aveugle. Peut-être, mais je vois bien bouger. Ah oui, bouger. Vous êtes toujours comme ça. Ah, parmi cette fois, vous ne direz pas que c'est une désillusion. Tenez, monsieur Platard, examinez. Voyez-vous danser le rideau de la croisée du côté de mon lit? Oh, vous avez raison. Je crois remarquer un mouvement particulier. Oh, il redouble. Les franges, les glands, tout tremble, tout s'agite. Oh, mais si ça continue, la tringle va tomber. Bah, oui, cela ne cesse pas. Que diable est-ce que ça signifie? Si c'était des voleurs? Des voleurs, oh, mon cher monsieur Blattard, vous m'ouvrez les idées. Mon Dieu, ce sont des voleurs. Oh, vite, vite, descendons. Descendons, descendons, répète toute la société. Et chacun, selon son agilité, de sauter les marches par deux, par trois, par quatre pour arriver plus. La dame, dont l'appartement avait été visité à son insu, est plus tremblante, plus agitée que ses rideaux. Elle pousse brusquement le vasistas de son portier. « mon flambeau !» demande-t-elle avec une impatience mêlée de trouble. « Mais dépêchez-vous donc pour aller ouvrir la mèche demain. » « Bon, si vous voulez qu'elle coule. Mais quand on vous dit qu'il y a des voleurs dans la maison. »« Il y a des voleurs ?»« Ben oui, il y a des voleurs. »« Où qui sont les voleurs ?»« Chez moi. » »« Chez vous, madame bourgeois. »« Chez vous, ben, vous plaisantez. »« Ah non, je ne plaisante pas. Allez, courez promptement avertir le principal. »« Monsieur Desloyers, j'y vais. » Priez-le de vouloir bien venir sur le champ. Le portier se hâta de remplir sa mission et ne tarda pas à reparaître accompagné de M. Desloyers, qui au seul mot de voleur a déjà pris des mesures pour l'attaque. En véritable hussard d'alcôve, il n'a quitté ni sa robe de chambre, ni son bonnet de coton, mais ces besicles ont remplacé le garde-fus de taffetas vert. Il a relevé ses bas, rattaché ses jarretières et est armé d'un broche qu'il pose en traversant sa cuisine. « Ah ça, mes amis, dit-il, de la prudence, surtout pas de bruit. Nous voulons monter, n'est-ce pas ? Alors, chut, chut. Ah, il me semble entendre une voiture. Ah non, c'est une voiture. Allez, un moment, ne précipitons rien. Tout le monde va se déchausser. Chut. Vous, monsieur Tripot, c'est au portier qu'il s'adresse, comme il pourrait être en force, prenez votre verlin. Madame Tripot va empoigner son balai, et mademoiselle Tripot, la poêle à feu. C'est d'abord en chacune une chaise afin d'accabler l'ennemi. Actuellement, allez, en avant. Moi, je me charge de soutenir la retraite et s'il y a de la résistance, je me porterai de ma personne partout où il me conviendra de le faire. C'est entendu, c'est dit, c'est compris. Allez, passez devant moi, je vous suis. Toute la troupe s'ébranle en longeant la rampe. Parvenue au second, elle s'arrête. Chut, c'est là! Et on se range en bataille sur le côté. Le portier, qui forme l'avant-garde, introduit doucement la clé dans la serrure. La porte cède. Oh, ce n'est qu'un cri de surprise, d'étonnement, d'indignation, de scandale. Un homme et une femme, des meubles brisés et des paquets les uns sur les autres. Quel tableau! Les dames, comme par un mouvement spontané, s'appliquent sur leur organe visuel cette main discrète, officieuse, persienne, qui permet de satisfaire la curiosité en ménageant la pudeur. Au-dedans, au dehors, tout est immobile, jusqu'au rideau. Acteurs, spectateurs, restent comme pétrifiés. Personne ne parle, personne ne dit mot. Tant on est interloqué, tant est grande la stupéfaction. Le portier est muet aussi, mais il ne peut plus tenir. Et rompant le silence, « Ah, dit-il, voilà du nouveau !» Faut que le commissaire vienne et que la barbe du juge en fume. Le commissaire, les exempts, la garde, qu'un voisin est allé chercher, ne se font pas longtemps attendre. On s'empare des deux amants. Adèle, interrogée la première, ne se déconcerte pas. Elle proteste que sa présence dans sa chambre, où elle a été surprise, n'est que l'effet d'un cas fortuit. Elle ne connaît pas l'homme avec qui on l'a trouvé. Elle n'a seulement jamais vu de sa vie. Mais, comme elle est fille publique, il l'a accostée dans la rue et ils sont montés ensemble dans la maison, croyant que c'était une maison de plaisir. Une porte était ouverte sur l'escalier et, ma foi, l'occasion, l'herbe tendre, au surplus, on n'est pas plus étrangère à la formation des paquets et un vol a été commis, mais sans laver les mains. Le mensonge était assez bien imaginé, mais oui, Gautier, avec qui Adèle n'avait pas pu se concerter, ne tint pas le même langage. Et de cette différence dans les dires, résulta pour eux deux une condamnation à 16 ans de fer. Puis Gautier partit avec la chaîne en 1802. 10 ans plus tard, je le rencontrais sur les quais. Il s'était évadé. Je l'arrêtais. Depuis, bon, il est mort au bagne.